Il est minuit 15. Et effectivement, on risque de me répéter, Jacques Fabi. Il est en congé pour les deux prochaines semaines. Ce qui nous permet de lui souhaiter un bon congé, mais ce qui nous permet de souhaiter la re-bienvenue à Jean-François Guay, qui, tout avocat qu'il est, a fouillé sur la cause du fameux du téléphone, du dispositif main libre, tel que prononcé par le juge de la Cour municipale de Rosemère. Là, on disait tantôt que quelqu'un dont le cellulaire était tenu par la conjointe et qui parlait en ne touchant pas à l'appareil,
oui,
s'était vu quand même imposer une amende et une sanction.
Effectivement. Mais j'ai le jugement devant les yeux.
Ouais.
C'est un jugement qui a été rendu le 19 mars 2019, comme tu disais, à la Cour municipale de Rosemère.
Ouais.
Et puis là, ben, y a des nuances à apporter dans tout ça. Parce que ce qu'on a véhiculé aujourd'hui dans les médias, c'est peut-être un résumé de la situation. Là, on a le jugement dans les yeux.
Il manquait des petits bouts.
Si on se fie au jugement, si on regarde les faits, on dit que le policier a vu circuler le défendeur sur le boulevard Labelle à Rosemère, puis était apparemment au téléphone cellulaire.
Avant de rentrer dans le lave-auto.
Dans le stationnement du IGA Express, dans cette région-là, où il y a un lave-auto puis une station d'essence. Là, le policier, lui, a suivi le conducteur des yeux et puis a constaté que, selon le policier, le défendeur tenait le téléphone dans la main gauche, à son oreille gauche. Puis le policier a vu très clairement l'écran lumineux à l'oreille du défendeur.
OK.
Donc là, ça change un peu la donne.
Oui, là, on n'a pas droit au même résumé, mettons.
Par contre, le monsieur est allé mettre de l'essence. Puis là, la conjointe est venue témoigner que quand ils ont reçu un appel, elle a pris le téléphone qui était apparemment dans la console centrale, puis elle ne sait pas si c'était son téléphone ou celui de monsieur qui sonnait. Elle l'a pris, elle a répondu, et puis c'est là que monsieur aurait parlé, selon la version des défendeurs, défendeur, sur le haut-parleur.
Okay.
Donc, on a une version contradictoire.
OK, mais on ne revient pas avec la nuance entre un dispositif de main libre et le fait que l'appareil ainsi utilisé pourrait aussi être un dispositif de main libre.
Le juge, à la fin de son jugement, il va se servir de la définition des mots pour apporter son jugement. Mais tantôt, tu as posé une question intéressante. Est-ce qu'on peut parler avec un téléphone cellulaire sur un terrain privé?
Oui.
Bon, mais dans ce jugement-là, le juge Brunet dit qu'on ne peut pas parler dans un stationnement en circulant, même si c'est un terrain privé, en l'occurrence un centre d'achat.
OK.
Il faut être stationné pour parler au cellulaire. Si on circule, à ce moment-là, les policiers peuvent nous donner une contravention.
Ce que j'avais entendu dire, c'est qu'on pouvait être... Le mieux, c'était, si on voulait se servir de son appareil portable, c'était d'être dans une voiture qui n'était pas activée. C'est-à-dire que le moteur était éteint. Une voiture qui ne roule pas.
Ben, en tout cas,
le moteur ne roule pas.
Il faut être stationné, il faut être en mode statique.
OK.
Et concernant la définition, comme tu posais tantôt, concernant le dispositif... Ben, le juge en vient à la conclusion que le fait que ce soit un cellulaire avec un haut-parleur, ça prend effectivement un dispositif main libre. C'est ça que le législateur voulait pour pas que les gens puissent toucher le téléphone. Mais là, je te dirais, il y a une zone grise.
Avec le policier qui vient témoigner, qui a vu l'usager avec son téléphone en main avant d'entrer dans le terrain de stationnement, j'imagine que le juge a été plutôt sensible à cet argument-là.
Ben, c'est sûr qu'on avait deux versions contradictoires, surtout que le défendeur a allégué, lui, que le flash lumineux que le policier aurait vu, c'est des écrans pour les enfants, là, le système de divertissement DVD en arrière. Donc... C'est un peu...
Toi, ta position d'avocat t'a interdit d'avoir un jugement ici en onde, mais moi, de mon côté, je ne suis pas avocat. C'est à quoi je rajouterais « mettons ». Le flash des écrans, des petits bonhommes, des enfants sur le bord en arrière...
La police aurait confondu ça avec les cellulaires à l'oreille de monsieur, selon la version du défendeur.
Je le rajoute une deuxième fois « mettons ».
C'est pour ça que la poursuite dit que la défense du défendeur...
C'est
invraisemblable.
C'est un argument étonnant. Ouais, on va dire ça de même.
Ouais. Et voilà.
Puis là, on est correct. Bon, on passe à la chronique automobile et on y va tout de suite avec des essais routiers. Tu as au moins deux modèles cette semaine dont tu veux nous parler, en commençant par la Nissan Altima. C'est quel format, ça, là?
L'Altima, c'est une berline intermédiaire.
OK. Ça ressemble.
Les concurrentes là, de la Maxima, vous avez la Toyota Camry, Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Kia Optima, Hyundai Sonata, Honda Accord. Donc,
L'intermédiaire.
C'est une berline, c'est une voiture quatre portes. C'est une catégorie, ça, Sylvain, qui est en perte de vitesse. Pendant des années, je te dirais que les voitures les plus vendues au Québec, au Canada, c'était les voitures compactes. On pense notamment à la Nissan Sentra, Honda Civic. Et du côté américain, aux États-Unis, c'était les berlines. Sauf qu'avec la popularité des VUS, ce genre de véhicule-là, ben, les ventes sont en régression. Donc, pour relancer les ventes, ben là, Nissan, eux, ont eu la bonne idée d'offrir un rouage intégral, c'est-à-dire quatre roues motrices de série dans l'Altima. La seule autre voiture qui offre la traction intégrale dans cette catégorie-là, c'est la Subaru Legacy. Il y avait aussi, à un moment donné, la Ford Fusion. Mais la Ford Fusion n'offre plus maintenant de traction intégrale. Donc, je pense, moi, que c'est un plus. Ils n'ont pas frappé un circuit, mais je pense que là, ils sont allés. Nissan s'est aventuré dans une niche. Je pense que ça va faire des petits, dans le sens que ça va être populaire, ça. Parce que le prix est intéressant. Ça commence quand même, je pense, à 27 000 $ et des poussières. C'est parce que là, ça devient une belle alternative à un VUS. Parce que souvent, les gens, quand ils achètent un VUS ou un multisegment, c'est pourquoi? C'est pour avoir peut-être un modèle à haillons 5 portes, hein, que c'est plus logeable à l'arrière. Un autre argument, c'est que les gens sont assis un petit peu plus haut. Ils ont un meilleur champ de vision. Mais souvent, ce qui vient... une des raisons, c'est la traction intégrale. Donc là, vous l'avez. Vous avez une voiture qui va consommer moins qu'un VUS. Voiture quand même confortable. Une voiture que j'ai eu à l'essai la semaine dernière. Très bonne tenue de route. Très bien insonorisée. Les portières sont quand même assez larges. Les gens qui achètent un VUS, souvent, c'est parce qu'ils veulent de la place. Là, je vous dirais, vous avez de l'espace autant pour embarquer à l'avant qu'embarquer sur la banquette arrière.
Ah oui? Oui. Parce que souvent, la banquette arrière, c'est la quantité négligée.
Bien, souvent.
L'accès à la banquette arrière, là, souvent, il faut être contorsionniste, pas à peu près.
Effectivement.
Les banquettes arrière, c'est fait pour ne pas s'en servir, souvent. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai, mais les familles sont moins nombreuses.
On est loin des stations avec des côtés en bois.
Puis même, il fait une époque où on disait, on appelait nos amis, on sort, on s'en va souper, on va aller vous chercher.
Oui.
Puis maintenant, les gens, ils veulent. Chacun va avoir leur voiture pour pouvoir sacrer le camp quand ça le tente.
N'est surtout pas me chercher. Tout à fait.
Donc, quand même, pour les jeunes familles, les familles, point, je vous dirais que les places arrière, il y a de la place suffisamment pour deux et même trois personnes. C'est très confortable.
Parfait.
Grand coffre arrière. C'est une voiture aussi qui est très élégante. Si on regarde la calandre à l'avant, c'est le nouveau design de Nissan, donc avec une calandre en V, des phares au LED. C'est une voiture qui ressemble beaucoup à la Maxima.
OK.
Mais qui est plus petite, puis moins dispendieuse. Puis je pense que la Maxima, la venue de l'Altima, la nouvelle Altima, va y faire mal. Parce que la Maxima est plus dispendieuse, elle est aussi plus puissante, parce qu'elle a un V6 3,5 litres de 290 chevaux. Dans le cas de l'Altima, c'est un 4 cylindres, nouveau 4 cylindres, avec 80 % de nouvelles pièces internes dans le moteur, que ce soit des nouvelles pièces où ils ont été redessinés. Et le moteur développe 182 chevaux. Donc, pour des performances, les gens vont opter pour la Maxima, pour un rendement plus économique, l'Altima. Mais sauf que le Maxima n'a pas de traction intégrale. Donc, c'est là où le bas blesse, parce que la voiture est plus chère. Et avec un gros V6 de 290 chevaux, quand vous n'avez pas de traction intégrale, puis vous pesez trop fort sur le champignon, sur l'accélérateur, là, il y a un effet de coupe dans le volant, parce qu'il y a un petit peu trop de puissance pour une traction avant.
OK.
Ouais.
Mais t'en fais une recommandation.
L'Altima. Effectivement, moi, l'Altima, là, c'est dans mon top 3 dans cette catégorie-là.
Ah oui?
Ah oui. Oui.
Bon, bien, c'est bon à savoir. Et l'échelle de prix, comme on le disait tantôt, entre 28 et 36 000, à peu près, là, on se tient dans ces eaux-là. Maintenant, c'est le prix moyen pour une auto moyenne, si on est rendu là. Hein?
Oui, c'est sûr qu'une voiture compacte, vous allez... Le prix va varier peut-être de 17 à 22, 23 000.
Mais pour la moyenne, là.
Mais vous avez la traction intégrale, puis il y a quatre versions. Vous avez la version S, SV, Platine, et la version tout équipée, là, c'est l'édition One.
L'édition One.
Ouais.
On se dessine pour dire que tout le monde a pris ça en note. C'était la Nissan Altima. Avant de passer à la pause, on va tout de suite toucher à notre deuxième modèle, et c'est la Toyota Sienna. La Toyota Sienna, ça, c'est une camionnette.
Bien, c'est une fourgonnette. C'est la seule fourgonnette, en passant, c'est pour ça qu'on en parle pendant qu'on est encore en hiver. C'est un modèle que j'ai eu à l'essai il y a 3 semaines. On avait encore un petit peu de neige, un petit peu de glace, même si aujourd'hui, on a encore de la glace et de la neige dans...
Oui, j'ai glissé tantôt.
Plusieurs régions du Québec,
oui. Oui,
j'ai fait mal?
Pas moi, mais ma voiture, oui.
OK, c'est la voiture qui est glissée.
J'allais un petit peu vite.
OK. Bon, t'as-tu encore tes pneus d'hiver?
Ben oui.
Ben oui, hein. On va pas les enlever de suite.
On habite au Québec, monsieur. Jamais avant le 15 juillet.
Non, c'est bien.
Ben c'est ça. Il nous reste une minute encore pour parler de la Toyota Sienna. On y reviendra après la pause. Mais en attendant, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler là-dessus?
La Sienna, ben c'est la seule fourgonnette sur le marché qui est une traction intégrale. Vous l'avez traction avant ou traction intégrale. Donc, les gens qui souvent veulent s'acheter un VUS, un grand VUS qui va consommer beaucoup, peut-être que vous pourriez regarder du côté d'une fourgonnette qui est quand même assez dispendieuse, mais qui consomme généralement moins qu'un VUS pour toutes sortes de raisons. C'est pas la même mécanique, c'est pas le même châssis. C'est une voiture aussi qui est souvent plus légère qu'un gros VUS, qu'un grand VUS, si on veut, un grand format.
Oui.
Et le rouage intégral est quand même assez efficace. C'est sûr que c'est pas à prise constante, c'est-à-dire que les roues en arrière vont s'enclencher, si on veut, quand les roues d'en avant patinent.
Okay.
Mais je vous dirais, quand vous avez une famille, puis vous voulez pas rester pris dans un banc de neige, puis vous voulez avoir un véhicule sécuritaire pour grimper les pentes, puis pas rester pris n'importe où avec les enfants, ben je pense que ça serait peut-être quelque chose à... une option étudiée là, du côté de la Sienna.
Parce que c'est drôle, hein? on parlait beaucoup des véhicules dans le temps, les camions, pour les gens qui restaient en région, en campagne, ces choses-là. Sauf qu'avec que les situations que l'on vit maintenant au niveau climatique dans les villes, c'est pas un luxe d'avoir des véhicules équipés comme ça.
C'est vrai.
Pour sortir pas des bancs de neige, des bancs de glace. Mais on va continuer notre analyse de la Sienna au retour de la pause. Puis après ça, tu vas nous parler du Salon de l'auto de New York.
Ouais, vous parlez des voitures qui sont en nomination pour le titre de la voiture mondiale de l'année.
La voiture mondiale de l'année. Ouais. Je vais voir si elle est dedans. On se retrouve dans 2 minutes. Vous écoutez Famille la nuit.